Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Manche Disque.
Bonsoir.
Bonsoir Julien, donc c'est Nico et Julien pour une nouvelle émission. Donc on s'excuse pour il y a 15 jours où il n'y a pas eu d'émission.
Oui, c'est un peu compliqué en ce moment.
On a été un peu pris par l'actualité, par les restrictions, par les problèmes d'organisation que ça suppose. Et donc voilà, on a raté, une fois n'est pas coutume, une émission. Mais on est bien de retour dans les studios. Toujours en différé par contre, parce que le couvre-feu...
Le soir, on n'a pas le droit.
Voilà, à l'heure où on se parle, en tout cas, c'est toujours d'actualité. Donc on fait avec les moyens du bord, mais on vous a ramené des belles petites galettes vinyles à déguster et à découvrir, on l'espère, pour vous.
Exactement.
Alors on va commencer tout de suite, tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais par un morceau qui va nous faire un petit peu voyager.
Exactement.
حبلة فيها قربالة وتحيرت على جيل جلالة شميت بخور نخالة وبديت نتف الغفالة وراه شدتني الجذبة 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 وراه شدتني الجذبة
Eh bien, c'était Fadoul. Fadoul avec le titre Shedetni Jedba, c'est-à-dire La transe me possède. Alors, je vous en parlais un petit peu de Fadoul parce que c'est quand même une belle histoire et le petit livret dans le disque nous le raconte. C'est Janis Sturz, un Allemand qui écrit ça. En fait, il explique qu'il a voyagé la première fois au Maroc en 2012 parce qu'il était le tour manager de Blitz The Ambassador. Et comme il avait un petit peu de temps à traîner, il est resté quelques jours après la tournée de son groupe, il a décidé d'aller se balader et devant une toute petite boutique ridicule pleine d'objets électroniques cassés, il a discerné une pile de vinyles qui était posée comme ça, entassée, des dead vinyles. Je crois qu'il est vraiment le vieux tas laissé là à mourir, quoi.
À la rigueur, sans pochette.
Ouais, voilà, dégueulasse, sans pochette, bien mal rangé, etc. Il est rentré, il a tapé la discute avec le taulier qui lui a dit qu'en fait, le gars, dans les années 70, produisait des vinyles et produisait de la musique avant que la cassette arrive et ne fasse des ravages. J'imagine qu'au Maroc, il y a eu une diffusion de la cassette, un côté peut-être plus pratique, plus immédiat, qui fait qu'elle a complètement annihilé le vinyle. Et donc, il s'en est procuré quelques galettes, et ça a présidé à la fondation, je pense, hein, du label Habibi Funk, qui a sorti d'ailleurs une très belle compile. Et sur cette compilation, il y avait un morceau que j'avais bien aimé, qui est de Fadoul. Et Fadoul, en fait, ça a été le gros croche de Monsieur Sturz, qui a décidé de partir à la recherche de cet artiste. Alors au début, il avait à peine le nom, etc. Il a mis des années, hein, avant d'identifier la personne, les ayants droit, retrouver tout ça. Et il s'avère que Fadoul, eh bien, on l'avait surnommé dans les années 70 le James Brown de l'Atlas. Il avait une culture funk, qui chantait presque comme du punk, hein, avec des éléments garage. Souvent avec un trio de musiciens. C'était assez rare à l'époque de faire ce style de musique. Et il avait eu le temps, donc en 71, de sortir un album qui s'appelle Alsman Zaib, c'est-à-dire Les temps sont durs. Et puis il avait continué sa carrière. Il avait un petit peu travaillé, je crois, en France. Il avait eu l'occasion au Maroc de faire une musique de publicité, je crois. Et puis il est décédé assez jeune, à 50 ans, en 91. Et il a été très rapidement oublié, en fait, malheureusement. Et donc ce bel album, le sort de l'oubli. Le gars du label, voilà, est allé chercher sa famille pour les ayants droit, etc.
Oui, parce que du coup, il n'a pas eu le temps de le trouver de son vivant.
Ah bah non.
Donc il a ressorti à titre posthume.
Alors oui, alors
les enregistrements, quoi.
Bah alors je sais plus exactement. Peut-être qu'il était déjà sorti, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qu'on ne trouvait absolument plus nulle part. C'était vraiment un tout petit label marocain. Et si jamais il est sorti, quelques personnes ont eu le privilège de l'avoir, mais voilà. Donc tout le disque est un peu à l'avenant, hein. C'est très funk et en même temps c'est assez brut, c'est assez garage. Et c'est traversé d'une énergie assez folle.
Ouais, c'est excellent, effectivement, excellent. Donc bon, on va peut-être retomber un petit peu en énergie, mais en même temps, ça va nous permettre de nous récupérer peut-être.
Exactement.
Pour ce qui nous attend après, puisque moi, je vais vous parler donc d'une compilation dont le sixième volet vient de sortir. La compilation dont je vous ai déjà parlé, qui est Jazz is Dead, le projet d'Ali Saïd Mohamed et Adrian Yonge, qui s'associe à des légendes du jazz, jazz fusion, jazz funk. Et ce sixième opus, donc, il concerne un artiste un petit peu, pas moins connu que les autres, ses prédécesseurs, qui est Gary Bartz. Gary Bartz, qui est un monument en fait du jazz, mais souvent qui s'est associé à des grands noms pour effectuer ce qu'il a effectué. Parmi les grands noms, on note Miles Davis, Donald Byrd, voilà, on est de Roy Ayers, on est de ce calibre-là. Donc c'est pas mal du tout qu'il y ait donc ce sixième volet qui le met vraiment à l'honneur en tant que star quoi. Vous allez vous en faire une idée. Alors je vous ai choisi un morceau qui s'appelle Visions of Love. Vous allez voir l'instru maintenant qu'au bout du sixième volet on repère clairement cette basse batterie du duo Ali Saïd Mohamed Adrian Yonge sur lesquels finalement les légendes du jazz posent et s'expriment. Vous allez voir c'est très présent dans ce morceau qui s'appelle donc Visions of Love. Je ne l'ai pas précisé, mais vous vous en êtes rendu compte. Gary Bartz est saxophoniste et clarinettiste. C'est important de le dire quand même, mais voilà, vous avez pu l'apprécier. Eh bien, on va rester. C'est une transition toute trouvée.
Eh bien, voilà, si pour moi, c'est parfait, puisque je vais pouvoir vous passer pour la première fois, je crois, du Fausto Papetti. Alors, Fausto Papetti, c'est un saxophoniste italien qui a eu une carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies, je pense, avec très régulièrement ce qu'il appelait des raccolta, donc des compilations.
Et des très belles pochettes aussi.
Oui, avec des très belles pochettes de femmes dénudées. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que certaines ont été censurées, notamment les éditions d'Urium en Espagne. L'Espagne franquiste n'aimait pas trop les tétons.
C'est ça, il mettait juste des petits rectangles noirs
voilà,
dessus.
Exactement, un petit peu comme, comme sur Facebook. de là à faire le parallèle Franco-Zuckerberg, bon après on peut aller un peu loin peut-être, mais bon.
Ceci ne nous concerne pas.
Voilà, exactement. Donc Fausto Papetti a fait énormément de disques, énormément de reprises dans des compilations. Alors il y a du Staying Alive, Whiter Shade of Pale, How Deep Is Your Love, il y a des musiques de films. À chaque fois, il y a un ou deux inédits hein, qu'il glisse dedans, y compris pour toucher, je pense, des droits. Puis aussi un peu pour s'exprimer, je pense, parce que ce sont souvent des très très bons morceaux. Là, j'ai failli vous le passer, celui-là, mais j'en ai choisi un autre. Puisque je vous ai choisi dans, un peu dans la lignée de... Il y a plusieurs émissions de cela, je vous avais fait écouter une reprise du thème des Dents de la Mer.
Ouais.
Par Lalo Schifrin.
Tout à fait.
Et là, je vous propose d'écouter une reprise de John Williams, Rencontre du troisième type.
Et c'est parti. Nous étions au cinéma.
Oui.
En ces temps de pénurie,
tout à
de
fait.
Salles de spectacle, de théâtre et de salles de cinéma, eh bien, on s'est rappelé un bon souvenir cinématographique grâce à Fausto.
Grâce à Fausto qu'on retrouvera, hein, je pense, parce que j'ai pas mal de disques de ce monsieur. J'aime beaucoup. Il y a des morceaux des fois un petit peu plus barrés, on pourrait presque dire. Mmh. Et puis des trucs très très commerciaux, voilà, Staying Alive ou autre, mais avec ce petit charme rétro.
Funk aussi.
Ouais, exactement.
Un petit côté funky.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, ouais. il s'est c'est vrai qu'il s'affaire souvent, Fausto Papetti, à faire des reprises de tubes disco, parce qu'à l'époque où ça sortait, ces disques, c'était un petit peu le courant en vogue et vendeur, et puis qui allait bien aussi avec les pochettes de femmes nues, je sais pas pourquoi, le disco, ça a toujours ce côté un peu sexy, machin. Mais il y a toujours cette élégance jazz-funk qui, je trouve, ne fait pas ringard, quoi.
Non, ça marque une époque, oui, parce que je trouve, voilà, on dirait...
C'est un peu daté quand même.
Des fois, on dirait des morceaux qui pourraient passer dans des films italiens des années 70, quoi, les scènes sur la plage ou dans la ville, les promenades en amoureux. Mais pour autant, ça ne fait pas ringard. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon avis, et puis tu viens
je
le dire aussi. Donc,
je le partage.
On est au moins deux.
Voilà, donc moi je vais vous ramener dans un label beaucoup plus connu maintenant, mais on reste toujours dans l'esprit black music, soul funk. Je vais vous parler du label de la Motown et d'un monsieur que l'on ne connaît pas, en tout cas c'est pas le premier nom qui nous vient à l'esprit quand on pense à la Motown, c'est Leon Ware. Et pourtant Leon Ware, c'est un grand monsieur de la Motown, mais quelqu'un, un illustre homme de l'ombre en fait, hein, qui
d'accord.
a beaucoup écrit et composé pour des grands noms de la Motown, comme ça... je dirais Donny Hathaway, les Jackson 5, pas toujours dans la Motown d'ailleurs, hein, il a écrit aussi pour beaucoup, mais il était basé, sa maison c'était la Motown, donc Quincy Jones, les Jackson 5 je l'ai dit, Diana Ross, voilà, c'est quelqu'un qui a écrit pour des grands noms, et puis bah, il a essayé quand même de faire des petits projets solo quand même, donc il a fait aussi des disques, et pour son deuxième album, il bossait assez bien là-dessus, il était assez enthousiaste, il a voulu faire son deuxième album solo et il a fait écouter les démos à Berry Gordy, le patron de la Motown à l'époque.
Boss,
et Berry Gordy, quand il a écouté ces morceaux qui étaient vraiment cool de Leon Ware, lui il a dit par contre, écoute Léon, ils sont bien tes morceaux, mais le problème c'est que moi quand je les écoute, je me dis que c'est l'opportunité parfaite, ces morceaux ils sont taillés pour Marvin Gaye qui est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment et ce serait cool de le relancer avec des bons morceaux. Donc est-ce que tu serais d'accord pour lui filer tes chansons? Alors Leon Ware, il a été d'accord au final, donc il a donné pratiquement toutes ses chansons donc à Marvin Gaye, qui en a fait un album qui s'appelle I Want You. Donc bon, Leon Ware, il s'est pas fait complètement truander parce qu'il est crédité sur toutes les chansons. Donc
oui,
pour lui, c'était aussi une bonne opération
d'argent.
Commerciale.
Mais c'est une belle preuve d'abnégation, je trouve, comme tu dis, de rester dans l'ombre, quoi.
Artistiquement, voilà, il s'est effacé devant le poulain de l'écurie Motown qu'il fallait absolument préserver parce que c'est le nom qui fait vendre des disques. Et puis bon, financièrement, ça devait l'aller parce que forcément, ces bons morceaux vendus avec le nom de Marvin Gaye, certainement qu'il y a plus de copies qui ont dû s'écouler. Mais toujours est-il que voilà, il se retrouve un peu dépossédé de son album et donc il négocie de pouvoir avoir les moyens d'en refaire un, donc de se remettre à l'écriture et il se remet au travail et ça donne un album qui s'appelle Musical Message, dont on pense, on pourrait penser en tout cas qu'il a été fait avec des bouts de ficelle qui restaient de tout ce que lui avait pompé finalement le projet I Want You de Marvin Gaye, mais pas du tout. C'est un album vraiment très 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 classieux, avec une qualité de composition extraordinaire, avec des morceaux fantastiques, qui a été un échec commercial parce que complètement étouffé, en plus sorti la même année qu'I Want You.
Ah oui, d'accord.
Donc complètement étouffé, donc 76, complètement étouffé par Marvin Gaye, mais qu'aujourd'hui on réédite et que les connaisseurs de soul et de funk réécoutent, redécouvrent avec plaisir. Ça a été un des disques du mois de la dernière fournée de Vinyl Me Please, le club de vinyle dont on a déjà parlé ici. Et donc je vous propose alors un petit exercice sympathique qui a du sens par rapport à tout ce propos que je viens de vous donner, c'est de s'écouter en enchaîné un morceau de Marvin Gaye, I Want You, donc le morceau titre de l'album I Want You, qui a été écrit donc par Leon Ware à la base pour lui, et puis ensuite un morceau de Leon Ware qui s'appelle donc French Waltz, et puis vous verrez que on est sur des styles vraiment, on voit que c'est la même personne qui a écrit
tout ça. Derrière tout
voilà.
ça quoi.
Donc on commence tout de suite avec Marvin Gaye, donc I Want You. Voilà, donc c'était un tout petit morceau en fait, hein, qui c'était French Vals, donc un morceau un peu conceptuel. Enfin, c'est peut-être un presque un interlude entre deux morceaux, mais c'était pour vous montrer un peu l'instru et la façon de décrire les morceaux qui peut tout à fait ramener à Marvin Gaye en fait. Et on voit bien que finalement Leon Ware et la Motown y sont depuis le début dans pas mal dans ce type de son qu'on connaît. Mais je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment découvrir l'univers de Leon Ware, qui vaut vraiment le coup, à vous procurer une copie de cette réédition récente là de Musical Message, avec en plus une très belle pochette. On parlait tout à l'heure de Fausto Papetti.
Tout à fait, il n'a rien à envier.
Sur la célébration de la femme et de sa beauté esthétique, corporelle, voilà, mais sans vulgarité aucune. Toujours vraiment, voilà, de l'art, de la photo. Et donc maintenant, on va...
Eh bien, on continue un petit peu dans la musique noire, si je puis dire, mais en faisant un petit détour quand même, puisque je vais vous passer un morceau d'un artiste qui s'appelle Sivuca. Alors Sivuca, c'est un multi-instrumentiste brésilien, albinos, à ne pas confondre avec Hermeto Pascoal, qui lui aussi est un multi-instrumentiste brésilien et albinos. Et en plus, on dirait vraiment qu'ils sont presque frères, mais ce n'est pas le cas. Sivuca, lui, est malheureusement décédé en 2006.
Parce qu'il a l'air un peu âgé sur la pochette.
Oui, déjà, alors que c'est un album de 73.
D'accord.
Donc,
il est décédé en
En 2006.
En 2006, ça veut dire.
Donc voilà, il a quand même eu un petit peu de marge. Il a été découvert en faisant la tournée américaine de je ne sais plus qui ici, pardon, Harry Belafonte, à qui il a volé parfois même la vedette sur certains soirs.
D'accord.
Donc voilà, c'est un artiste assez polyvalent, puisque là sur son album donc Sivuca, qui date de 1973, il joue des claviers, de la guitare, de l'accordéon et du scat. Et je vous propose, donc je parlais de Black Music, d'entendre sa reprise de morceau Ain't No Sunshine de Bill Withers.
I know.
Sur le manche disque Radio G 101.5.
Et oui, toujours, même si on a fait un petit détour au Brésil.
Oui, exactement, avec Sivuca, donc.
Ouais, c'était très très bien, et puis un petit hommage effectivement à cette légende qu'est Bill Withers.
Bill Withers, exactement.
Qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, je crois. Mm-hmm. Si je ne m'abuse. Maintenant je vais vous parler. Alors on va revenir un petit peu plus sur le côté objet, vinyle et puis nostalgie, puisque je vais vous parler d'un disque que tout le monde a, je crois, croisé dans un vide-grenier.
Ouais, pour peu que vous écumiez les bacs des vide-greniers qui nous manquent d'ailleurs.
Qui nous manquent, oui.
Si tu nous entends, vide-grenier.
Vous vous souvenez ce que c'est qu'un vide-grenier? Vous savez, c'était ces rassemblements de vendeurs particuliers, brocanteurs et autres qui se mettaient sur des stands, avec des tables à tréteaux, et puis que parfois avaient parmi leurs cartons des vinyles en stock.
Je crois que Lévi-Strauss en parle hein, dans ses premières études, il y a des décennies de ça. Il a étudié cette étrange coutume perdue.
Il y a des vestiges, hein, paraît-il, des tréteaux qui sont restés encore sur place, qu'on peut déterrer si on creuse aux bons endroits, sur les bonnes esplanades. Toujours est-il que dans ces vide-greniers, vous avez sûrement croisé ce disque qui s'appelle Whose Side Are You de Matt Bianco, un disque de 1984. Qui, je pense, alors juste visuellement, parce que c'est vrai que c'est pas très radiophonique, sinon visuellement, ce sont trois personnes habillées de façon un petit peu particulière, on va dire, un peu sky brillant.
Cold wave, quoi.
Dans un tunnel, qui ont l'air très contents. Et c'est plutôt blanc, voilà. Et ce disque-là, vous le trouvez, je pense qu'il s'est très 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 bien vendu en 1984.
D'où le fait que, on le retrouve partout.
C'est le seul album du groupe, en tout cas dans sa formation originale, puisque juste après ça, ils ont eu deux gros succès en single, hein, dont un que je vais vous passer tout à l'heure, que vous connaissez peut-être sans l'associer forcément à ce nom-là. Et à la suite de ces succès, ils n'ont pas trop, je pense, réussi à se mettre d'accord sur comment ils allaient gérer ce succès-là. Ils se sont séparés, ils ont splitté, donc il y a eu pas mal de projets solo d'un côté, une tentative de garder le nom de l'autre, mais rien après qu'il ait été vrai.
Parce que finalement, Matt Bianco, c'est le nom du groupe et pas le nom d'un des trois.
Matt Bianco, c'est le nom
Matt
du
Bianco,
groupe.
Pardon. Ouais.
C'est le nom du groupe, voilà. C'est pas du tout un projet solo d'un certain Matt Bianco.
Ouais, d'accord.
Je vous propose d'écouter donc un morceau qui va raviver vos souvenirs pour ceux qui les ont connus des années 80, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. C'est une chanson qui est restée, me semble-t-il, dans l'inconscient collectif. Une chanson donc de Matt Bianco dans leur style particulier qui alliait de la pop avec du jazz et des musiques du monde type justement. On va rester aussi dans le côté un peu brésilien, peut-être en tout cas un petit peu latin. Voilà. Donc je vous laisse écouter ce morceau qui s'appelle More Than I Can Bear. qu'est-ce que j'adore ce morceau.
Effectivement, ça nous remet bien dans les années 80 et comme j'ai eu l'occasion de te le dire hors antenne, le choc n'est pas frontal comme certains morceaux dont on a été gavé parfois fort agréablement, hein, c'est pas la question, mais ça revient doucement, cette familiarité jusqu'au refrain.
C'est ça, exactement.
Ah oui, ça me dit quelque chose et tout. Puis après, évidemment quand le refrain arrive, voilà.
Il y a une redécouverte presque. Et donc, bon, je vous promets pas que tout l'album est de ce calibre-là. Hein. Ça fait partie des singles qui l'ont vraiment vendu. Il y en a un deuxième qui s'appelle Get Out Your Lazy Bed, qui a aussi pas mal marché. Le reste est plutôt, on va dire, inégal. Mm-hmm. Mais c'est un disque qui vaut rien.
Oui, mais tellement. Il a tellement été vendu à l'époque.
Et voilà, donc ça vaut le coup, rien que pour ça, vous lâchez votre pièce de 1 euro quand vers 2030, voilà, les vide-greniers reprendront. Mettez votre pièce de 1 euro si vous le voyez. En plus, même si vous arrivez au vide-grenier à 16h, il y sera toujours.
Oui, il y sera toujours. Ouais, ça fait partie.
Donc voilà, ne le ratez pas, c'était le petit tuyau de cette émission.
Eh bien, on enchaîne sur un disque peut-être un petit peu plus dur à trouver, quoique il y a eu une réédition récente donc chez Vinyl Me Please.
Oui, mais l'original.
L'original, oui.
Il est intouchable, hein, intouchable. Je confirme qu'il vaut des chiffres, enfin un nombre à trois chiffres.
Je vous parle de The Nucleus de Galt McDermott. Galt McDermott, qui nous a quitté en 2018, est majoritairement connu, même si ça lui fait un petit peu de l'ombre, je pourrais dire, par sa contribution à la comédie musicale Hair. Let the Sunshine In, c'est
très très bonne.
En partie lui.
Oui, mais très bonne.
Oui, tout à fait. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour Galt McDermott, qui, selon ses contemporains, avait cette espèce presque de magie, hein, c'est dans les termes que j'ai pu lire, pour dégoter comme ça des mélodies. Alors, c'est un pianiste, hein, sur ce disque-là, c'est le leader. Il joue du piano et de l'orgue. À la batterie, notamment, il y a le fameux Bernard Purdy. Que Vinyl Me Please, dont Vinyl Me Please a aussi sorti un album où il est, pour le coup, lui, le leader. Et alors là, je vous ai choisi un morceau, personnellement, que j'adore. Alors, c'est assez curieux, parce qu'il y a trois morceaux sur la face B qui s'appellent Golden Apples, part 1, 2 et 3. Moi, mon favori, que je trouve d'une extrême beauté, hein, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce morceau, c'est Golden Apples, part 2, et qui est pourtant après la partie 3. Voilà. Thank you.
C'était donc ce bon petit disque, effectivement, de piano avec instru derrière, assez cool, assez easy listening. Effectivement, une bonne idée de la part de Vinyl Me Please de rééditer ce disque complètement intouchable en version originale.
Oui, tout à fait.
Et qui ravira les amateurs parmi vous de ce genre de grands compositeurs, on va dire.
Ouais, exactement, vraiment... Une très belle galette. Les autres morceaux sont un petit peu à l'avenant, mais alors voilà, celui-là je le trouve d'une clarté et d'une intensité assez exceptionnelle.
Ah oui, c'est le cas. Donc là maintenant on va peut-être se quitter, alors même s'il est encore un petit peu tôt, hein, on a le temps de décortiquer un peu ce nouveau volet de Brown Acid, puisque c'est un petit peu la tradition pour ceux qui nous écoutent depuis quelques temps maintenant, la tradition de l'émission. Donc voilà, on va pas se quitter sans écouter un nouvel exemple de cette fantastique compilation.
Depuis le début de cette saison, en fait, hein, j'ai découvert cette série de compilations Brown Acid, dont je vais vous parler un petit peu. Donc, c'est édité chez Riding Easy Records. À l'avant, c'était Easy Rider Records, et puis ils se sont fait un petit peu attaquer par le fait que ça ressemblait un petit peu trop au titre du film. Donc, ils l'ont transformé en Riding Easy. Alors, ce sont des Américains, c'est Lance Baresi et Daniel Hall qui compilent donc les morceaux de groupes, alors essentiellement américains, même si quelquefois il y peut y avoir des Canadiens ou d'autres nationalités, mais enfin on est dans une écrasante majorité sur des morceaux américains. Et en fait, là je vais vous passer un morceau la première compilation. Ils appellent ça les trips. On est sur The First Trip, qui a été récemment réédité, hein, qui commençait à être difficile à trouver. Donc Brown Acid, The First Trip, ils expliquent un petit peu les choses, c'est-à-dire c'est entre le flower power et avant le punk. Ouais. Alors que les jeunes ont grandi en prenant un peu des drogues, du LSD, en étant un peu pacifiste et tout ça, en écoutant les Beatles. Et petit à petit, il y a un tournant dans cette société américaine, en tout cas, avec notamment les atrocités de la guerre du Vietnam, qui sont assez médiatisées. Altamont, le fameux festival dans lequel jouent les Rolling Stones, dont la sécurité est assurée par les Hells Angels, qui vont tuer un spectateur noir.
Ah oui, parce qu'ils sont connus pour leur finesse.
Voilà, exactement. Et d'un autre côté, même si c'est moins musical, on pourrait parler de Charles Manson, donc ce chanteur folk un petit peu raté, ou en tout cas qui a eu un petit peu de mal, et qui a fini par faire exterminer des gens par ses disciples.
Et pharmacologiquement en parlant, voilà, je vais y arriver. Ouais. On peut aussi parler de l'arrivée de l'héroïne.
Voilà,
aussi,
l'arrivée de l'héroïne qui
change beaucoup de choses.
Qui va profondément assombrir les compositions, les artistes, etc., qui va les asservir en fait, hein, dans une espèce de truc très 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 noir, là où le LSD était un petit peu plus lumineux, voilà, on va dire. C'est ça. Donc il y a eu des groupes, hein, qui ont un petit peu mené la voie. Le quatrième de couverture, enfin le dos de la pochette, évoque Led Zeppelin, Black Sabbath bien sûr, Jimi Hendrix Experience, Grand Funk Railroad, Deep Purple, tous ces groupes-là qui ont musclé un petit peu leur son à un moment, l'ont même assombri, hein, comme Black Sabbath, ont donné cette espèce de heavy rock, heavy psyché rock, comme on peut le dire, qui va préfigurer 30 ans plus tard le stoner, notamment le stoner qui puise pas mal de ses racines là-dedans. Donc sur ces compilations-là, on est vraiment sur des petits groupes qui ont été un peu dans l'ombre de toutes ces grandes formations que j'ai évoquées, qui ont sorti des 45 tours souvent produits de manière indépendante, voire autoproduits, et qui servaient vraiment à soit des démos pour les maisons de disques, soit qui étaient vendus dans les concerts pour payer l'essence pour aller à la date suivante. Quoi. On est vraiment sur du bricolage comme ça. Et Riding Easy Records les récupère, cherche les ayants droit ou les artistes encore en vie, bien sûr. Et au fur et à mesure de ces compilations, on va proposer donc un énorme panel de ce courant de rock un peu lourd, avec à chaque fois, alors là pas sur le premier, mais quelques lignes pour présenter les différentes formations. Donc voilà, on en est au 12e. Le 12e sort là le 20 avril. Et à savoir, si vous êtes intéressé, il y a une boutique américaine, mais ne vous ruinez pas en frais de port. Depuis peu, ils ont ouvert une franchise, enfin, ou une antenne en Angleterre, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher pour les frais de port.
Oui, enfin, quoique maintenant, l'Angleterre, ils rajoutent des taxes d'importation.
C'est ça. Donc, à vérifier, ouais. Faites le calcul. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un petit peu plus facile à faire venir. En tout cas, ça l'était jusqu'ici. Moi, j'attends le 20, hein, le 12, qui sort le 20. Ouais. Je l'ai précommandé. Je vous dirai si ça me ruine ou pas.
Ouais, bon, mais voyons, il faudrait qu'on en parle peut-être un petit peu de cet effet Brexit sur le marché du vinyle, parce que ouais. C'est vrai qu'on est assez
impacté. Entre ça et le Covid, c'est vrai que c'est pas facile pour les facile. Collectionneurs.
Les temps sont durs.
Alors, je vous propose donc un morceau d'un artiste qui s'appelle Lenny Drake, qui est de Farmington dans le Michigan. Un morceau sorti en 1970 qui s'appelle Love Eyes, entre parenthèses, Cast Your Spell on Me.
Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors, on vous dit à dans 15 jours.
À dans 15
Inch'Allah,
jours.
Inch'Allah, comme disait MC Solar.
Exactement.
À plus. So tired.